Hors Case, une mission LGBT de l'association Telle Quelle en collaboration avec Radio Campus. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Hors Case, une émission destinée à la communauté LGBTQIA+, mais pas seulement. Alors ce soir, on va parler d'une étude qui a été réalisée. Elle s'est intéressée à entre l'absence de chez soi et la recherche de stabilité, dans un parcours de mal logement chez les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes et les personnes trans concernées par le travail du sexe ou la prostitution. Alors heureusement que ma co-animatrice est intervenue, donc avec moi pour animer cette émission il y a
Marine, bonsoir.
Et bonsoir Marine. Et nous avons une invitée, on a Anna Dressler qui a réalisé cette étude.
Oui, en effet, bonsoir.
Bonsoir Anna.
Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu?
Oui, du coup, mon nom c'est Anna Dressler, je suis assistante doctorante à l'ULB en géographie. Et du coup, j'ai mené cette recherche ensemble avec Alias, du coup, une association qui accompagne les personnes HSH, du coup, les personnes des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes et des femmes trans. Et j'ai pas mené la recherche seule, du coup. Enfin, déjà, c'est Alias qui a impulsé la recherche et je l'ai menée avec Maurice Triano, du coup, un travailleur social chez Alias aussi, qui, du coup, nous avons co-mené cette recherche.
Donc on peut parler d'une recherche entre une association, parce qu'il y a une association, et l'ULB, donc le milieu académique et associatif qui sont alliés pour cette recherche.
En effet, et la demande elle vient d'Alias, à cause des raisons très... on va en parler.
Alors c'est une recherche bien particulière, c'est un public bien particulier. Qu'est-ce qui t'a motivé ou qu'est-ce qui vous a motivé à faire cette étude?
Tout d'abord, c'est peut-être pas ce qu'on est habitué dans des recherches où c'est le chercheur qui commence à chercher le sujet, mais c'est l'association qui a cherché le sujet. C'est un sujet qui est extrêmement important du fait que les personnes que Alias accompagne, en fait, trois quarts des personnes sont en situation de mal logement, ce qui est quand même beaucoup. Et alors, du coup, c'est aussi une question qui grandit de plus en plus au sein de leur public. Et alors, du coup, mais aussi de comprendre qu'est-ce que c'est exactement, qu'est-ce que sont ces situations de mal logement qui sont restés quand même assez flous et qu'on n'arrive pas toujours à expliquer avec les termes ou ce qu'on connaît de forme de mal logement jusqu'à aujourd'hui.
Ah, alors tu parles de mal logement, mais est-ce que tu peux essayer de définir c'est quoi le mal logement pour qu'on puisse mieux savoir ce que c'est?
Ouais, en effet, c'est un terme que nous avons cherché un peu pour englober différentes situations parce que en effet c'est très vaste. Du coup, le mal logement le plus brutal, on va dire, c'est vraiment être sans abri. Alors du coup, se retrouver dans la rue ou dans un hébergement d'urgence. Mais alors du coup, il y a aussi des situations de sans logement, du coup, de ne pas avoir son propre chez soi, de logement précaire. Alors du coup, de ne pas connaître les circonstances dans lesquelles on va vivre à long terme. Et aussi du logement inadéquat. Alors du coup, il y a vraiment des problèmes dans le logement et on ne se sent pas chez soi. Du coup, c'est un terme plus vaste pour englober toutes ces situations différentes.
On va revenir dessus un peu après.
Ok. Est-ce que tu peux nous faire un explicatif démographique de toutes les personnes que vous avez rencontrées?
Oui. Déjà, Alias avait un peu monitoré quelles sont les situations en détail à travers les 200-300 personnes qu'ils accompagnent par an. D'où sortait ce chiffre de trois quarts de personnes qui sont en mal logement. Et nous, du coup, on s'est dit, on va rencontrer 18-19 personnes pour vraiment faire leur parcours. Quel était leur parcours? Quelles sont les différentes étapes par lesquelles les personnes sont passées depuis qu'elles sont en Belgique? Et du coup, ce sont tous des travailleurs ou des travailleuses du sexe. Ce sont 18 sur les 19 personnes sont des personnes issues d'une migration. Le statut du coup officiel, est-ce qu'ils ont des papiers ou pas, ça varie de personne en personne. Il y a des personnes qui sont là depuis 20 ans, qui ont du coup des papiers, et d'autres qui viennent d'arriver il y a quelques mois. Et deux tiers des personnes qu'on a interviewées viennent d'Amérique latine, et un tiers plus ou moins du Maghreb. Et on a quand même, pour avoir un peu aussi interviewé, une personne belge qui a du coup un autre parcours, mais a aussi connu le mal logement.
Ok. Et ces entretiens, ces interviews, elles ont été faites dans la langue d'origine des personnes. Elles ont été faites par. Il y avait une personne pour traduire. Comment?
On se débrouille en portugais. Moi, je parle portugais. Maro parle bien espagnol, en français ou en anglais. Du coup, dans ces quatre langues-là, on était à deux parce que Maro, c'est une personne de confiance pour eux aussi. Il y a quand même des sujets assez sensibles et difficiles pour pouvoir établir la confiance et avoir un suivi aussi si jamais ça ne se passe pas bien. Et alors du coup, moi en tant que chercheuse pour co-mener cette recherche et aider à évaluer les résultats. Voilà, quatre langues.
Trop wow. J'ai déjà du mal avec le français alors. Ok, merci pour toutes ces infos. Alors moi, je propose une petite pause musicale et c'est des suggestions que Anna nous a faites. Donc moi, je ne connais pas du tout. Enfin, je ne connaissais pas du tout ce que c'est un proposé, donc c'est une découverte pour moi. Alors si je prononce mal, je suis vraiment navrée. Alors la première, c'est Lolo Massabello et c'est Vivace.
Hey 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 you motherfucker came on the beat.
Ah.
La novedad es que siga viva.
35 años de expectativa.
He llorado al ver partir a mis amigas.
La probabilidad en mi contra toda la vida.
Toda la vida.
Una cuchilla debajo de mi lengua. Muletilla pa' espantar la muerte que me acecha. Sigo viva, Mara, tú aún respiras.
Tu normalidad nos cuesta la vida. Tu normalidad me cuesta la vida.
Tu normalidad nos cuesta la vida. Y la novedad es que sigo viva. Seguimos vivas.
Podrán cortar todos los pétalos, pero severas flores brotan hasta en el cemento. Seguimos resistiendo. Ajá, ajá. Mi ropa, mi piel, mi maquillaje, mi cuerpo y resiliencia me han convertido en target. Oh, en un sistema cuyo lema enseñarles a odiarme. A mí también quiso enseñarme a odiarme, pero fui mala alumna y no aprendí absolutamente nada en esa clase. Soy el monstruo con peluca que te perturba y al mismo tiempo te la pone dura. Dispárame, descarga en mí toda tu culpa. Eres tan frágil que hago tambalear tu estúpida cordura. Tombos, dejen en paz a las maricas. No busquen mamadas camufladas en pesquisas. No busquen mamadas camufladas en pesquisas. Sigo viva como Angel modelando en pose. Tu cielo me cerró las puertas y ahora estoy en Vogue. Guárdate tus pesares, no busco tu aceptación. El miedo que nos sembraste se marchitó.
So what?
Seguimos vivas. Seguimos vivas.
Seguimos vivas.
Vivas, vivas,
vivas. A pesar de la herida abierta, seguimos vivas.
Y a la última, sí, soy la siguiente. O que mi tumba no cambie mi nombre por uno más conveniente. Por eso antes de salir te digo te amo, mami, te beso la frente. Ora por mí, reza por mí, quizás tu Dios pueda protegerme.
Tu normalidad nos cuesta la vida. Tu normalidad me cuesta la vida.
Tu normalidad nos cuesta la vida. Y la novedad es que sigo viva. Seguimos vivas.
Bonsoir, et vous êtes toujours dans l'émission Orcase, une émission consacrée à la communauté LGBT. Et alors ce soir, on travaille sur un sujet bien particulier, c'est l'absence de chez soi et le mal logement pour les personnes ayant, donc des hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes et les femmes trans. Et alors c'est Anna Dressler qui a fait cette étude. Et alors Anna, tu peux nous dire quels sont les différents types d'expériences de vécu du mal logement?
Oui, bah déjà, il y en a quand même beaucoup. Du coup, ça va faire une petite liste.
Oui, ouais, je me doute.
Et aussi pour en dire, les personnes qu'on a interviewées, du coup, tant les hommes ayant des relations avec des hommes et les femmes trans, toutes les personnes qu'on a interviewées, ils ont connu au moins 5 types différents de ce que je vais nommer. Alors du coup, et même ça, dedans d'un an pour ceux qui viennent d'arriver, en fait. Du coup, c'est quand même assez impressionnant.
Donc, on peut dire là, quand tu dis qu'ils ont déjà eu 5 style de mal logement,
ouais.
C'est qu'on voit que finalement, il n'y a pas que un seul style que les personnes vont peut-être vivre, mais plusieurs en fonction des années et peut-être des expériences. Quoi.
Ouais.
Ok.
Bah, c'est souvent un parcours, en fait. On commence généralement avec la situation la plus désagréable. Et idéalement, on avance un peu dans le parcours de mal logement, mais il peut y avoir des chutes, des retours à des moments plus graves, on va dire. Mais du coup, pour en parler des différents types, du coup, ce que j'avais dit déjà, bah, mal logement, déjà, ça commence par pouvoir se retrouver à la rue, soit sur des périodes prolongées de plusieurs années ou entre deux logements, parce que les personnes bougent beaucoup de logement en logement. Du coup, entre les deux logements, ça peut se faire aussi que la personne n'a pas de logement pour 1, 2, 3 nuits. Après, oui, les hébergements d'urgence qu'on connaît pour le public sans-abri de manière générale. Vu que c'est des personnes qui viennent d'origine étrangère, aussi les centres d'accueil pour des personnes réfugiées.
Est-ce qu'il y a des limites à ces centres d'accueil ou ces structures d'hébergement ?
Oui, bah, déjà je pense qu'on connaît peut-être tous un peu les limites, qu'ils sont saturés, qu'ils ne sont pas toujours en bon état. Du coup ça c'est des limites générales, mais après il y a des limites aussi spécifiques pour les personnes avec qui on a parlé. Ceci dit, les personnes LGBT qui se retrouvent avec des personnes qui ont les mêmes profils que les personnes qu'ils ont fui dans leur pays d'origine en fait. Et ils se trouveront enfermés avec ces personnes. Et les personnes qui accompagnent, qui travaillent là-dedans aussi, c'est aussi des personnes qui peuvent quand même exercer de manière différente de l'homophobie, de la discrimination. Du coup, il y a tant ce vécu par rapport aux gens qui viennent des mêmes pays, qui ont les mêmes préjugés que les personnes qu'ils connaissaient déjà avant, comme le personnel en soi qui ne réagit pas de manière adéquate et ignore même ce problème ou dit « faut pas exagérer » ou « faut que tu te caches » ou ce genre de choses. Qui crée des situations de santé mentale parfois très très problématiques et très délicates.
Oui, donc un sentiment d'insécurité dans ces structures, de ne pas être bienvenue également.
Oui, tout à fait. Pas être bienvenue, mais aussi pas recevoir de l'aide médicale adéquate, parce qu'il y en a quand même pas mal qui ont besoin d'une aide médicale, de ne pas être pris au sérieux. Si jamais il y a un incident, il y a des personnes qui reportaient que voilà, faut passer à autre chose, ou même où il y avait une tentative de suicide, où les gens disaient de nouveau, genre, c'est pas pris au sérieux, des fois. Des fois, heureusement, oui, mais les endroits sont saturés, et en plus... De manière générale, ce n'est pas suffisamment pris en sérieux les personnes LGBT.
Qui sont donc en danger finalement dans ces centres également.
Oui.
Ok. Et à part ces centres, il y a quoi d'autre ?
À part ces centres, il y a du coup aussi des structures un peu plus, des structures d'hébergement non agréées. Du coup, oui. J'ai un peu du mal à expliquer ça, mais bon, c'est une autre manière aussi de se loger qui est un peu organisée. Une autre manière de se loger qui est très très répandue, c'est loger chez des tiers. Alors du coup, ça veut dire plein de choses différentes. Ça peut être tant chez des amis, chez de la famille, chez un partenaire ou soi-disant partenaire, c'est pas toujours très clair. Chez une autre collègue ou un autre collègue qui fait aussi du travail du sexe ou de la prostitution. Voilà, ça peut cacher plein de choses différentes en fait. Ou juste une personne qu'on a rencontrée, on a besoin de se loger, on va dormir là pour une nuit ou deux.
Donc ça veut dire être dépendant des règles aussi donc d'une personne tierce. Et puis on sait que ce genre de solution est viable pour un petit temps, mais jamais sur du long terme également.
Tout donc, à fait. Imaginons chez des amis ou de la famille, souvent c'est des personnes aussi issues d'un contexte migratoire qui n'ont pas les conditions idéales de logement non plus. Du coup, on ne peut pas accueillir dans des conditions adéquates à long terme. Chez un partenaire, ce sont des relations très inégales. Généralement, c'est peut-être souvent des Belges un peu plus âgés qui se permettent quand même d'agir comme ils veulent, d'exercer des violences, que ce soit physique ou psychologique, sur les personnes. Du coup, c'est... Oui, un partenaire, mais aussi une relation très, très inégale. Et alors, du coup, on exploite un peu cette personne. Oui, après les rencontres fortuites, bah, là, c'est juste un truc très vite pour essayer vraiment de ne se pas retrouver à la rue. Et aussi avec les collègues, du coup, collègues, amis, travailleurs du sexe, ça peut être aussi, en fait, un logement rémunéré. Du coup, on peut peut-être y travailler, mais généralement, on paye aussi pour cela. On ne paye pas peu. Et ça ne veut pas forcément dire qu'on a une chambre à soi. Du coup, on peut se partager la chambre, on doit quitter pendant que l'autre personne travaille, ce genre de choses. Ça ne veut pas représenter, juste parce que c'est une amie, un collègue, un grand confort.
Oui, donc ça montre vraiment des situations, des vécus délicats. Voilà, toutes ces situations de mal logement. Dans l'étude, en plus de voilà, ces différents, on va dire, portraits de type de mal logement, on a parlé aussi d'évoquer les réseaux informels.
Ouais.
C'est quoi exactement ça?
Bah, c'est ce qu'on a essayé, en fait, c'était ça, comme j'ai dit, bah, loger chez des tiers, ça représentait quand même la situation pour un quart des personnes, et oui, c'est, qu'est-ce que ça veut dire? Et du coup, souvent, c'est aussi ça, ça se retrouve là-dedans, les réseaux informels en partie là-dedans, mais aussi d'autres formes de logement informel. Bah, l'exemple qu'on a le plus, on va dire, développé, c'est l'exemple des plazas, c'est du coup des logements de travail. A priori, on y va pour y travailler. On peut y travailler. Enfin, c'est pas officiellement reconnu. Hein. Si on parle à quelqu'un ici, personne ne va connaître ces plazas, mais elles existent dans toutes les communes belges.
C'est pas un bureau où on va, on dépose son PC, on s'assied, on a un poste de travail.
Voilà. Mais voilà, chacun a, normalement, chacun a sa chambre et vit et travaille là-dedans. Bon, du coup, ça peut être la nuit, le jour, comme vous voulez. On paye à la semaine. On paye à la semaine entre 500 et 800 euros. La semaine.
Oui.
Du coup, ça fait quand même une partie importante, ce qui veut dire aussi que ces personnes doivent travailler énormément pour pouvoir payer ce loyer.
Et ces plazas, c'est, j'entends 500 ou 800 euros par semaine, j'imagine que tu as... Est-ce qu'il y a un standing ou est-ce qu'il y a... Je veux dire, c'est classe, c'est le terme luxueux.
C'est ce qu'on aimerait bien, hein. Mais non, malheureusement. Enfin, il y a des différences. On ne peut pas tout jeter dans un pot. Il y a des endroits qui sont assez confortables, mais il faut aussi savoir qu'il y a un intérêt des propriétaires de quand même se faire de l'argent, déjà si on demande autant. Et la protection, la sécurité, tout ce genre de choses ne sont pas toujours prises en compte de manière idéale. Il n'y a pas de personnel de sécurité ou ce genre de choses. Les personnes, ce n'est pas un lieu qui est reconnu, alors du coup, ils ne peuvent pas forcément faire appel à des formes d'aide officielle aussi. Et aussi, les chambres, parfois, c'est des toutes petites chambres avec un équipement minimal. Ça dépend un peu des endroits.
On se doute bien que ce genre d'endroit, il n'y a pas de bail.
Non. Non, on paye à la semaine et si on doit partir plus tôt, généralement, on ne reçoit pas l'argent de retour. Et aussi, c'est la question, alors du coup, de chaque fois se réorganiser pour chaque semaine. On peut aussi prolonger, mais c'est cher, mais de devoir chaque semaine retrouver un nouveau endroit où travailler.
Donc, ça fait l'endroit de travail et de lieu de vie deux en un.
Oui.
Voilà.
Mais en même temps, ça pose aussi quelques problèmes dans le sens où c'est pas reconnu et alors du coup on doit aussi peut-être se cacher du voisinage, on peut pas, voilà, le voisinage normalement on n'est pas au courant, on n'a pas approuvé ça, alors du coup les personnes doivent se cacher quand même, c'est pas que les personnes peuvent se balader comme nous on le fait parce que voilà, il y a quand même ce truc, faut essayer de rester discret par rapport au voisinage et en plus peut-être qu'on n'a pas de papier, alors du coup c'est pas comme nous, on se sert de nos logements.
Donc ça veut dire qu'en cas de pépin, appeler la police, ça va être compliqué. Si j'ai pas de papier, si c'est un endroit illégal, c'est clair que je vais pas oser aller chercher soit de l'aide, soit des secours, j'imagine.
Tout à fait. Et alors du coup, idéalement, c'est quand même les autres personnes qui sont dans l'immeuble qui viennent secourir s'il y a un problème. Mais généralement, les personnes ne font pas appel à la police. C'est très très rare.
Une petite pause musicale.
Tout à fait, tout à fait.
Alors, on vous propose d'écouter René Goust, je ne sais pas si je le prononce convenablement, avec Querida Muerte.
Si observas desde afuera no lo notas, pero una duda crece en mi cabeza. ¿Será que lo mejor es ir a prisa mientras doy vuelta en la esquina de los ojos que me acechan? ¿Será que les aguanto la mirada o será mejor andar y dar la vuelta en otra cuadra? La otra cuadra es un poco lo mismo, ciudad exponencialmente pesada. ¿Será que solo soy placer gratuito, un anaquel abastecido, mire a ver si algo le agrada? ¿Será que en esta curva de cadera mi vida corre peligro más que en la de carretera? Mi madre me decía, ten cuidado, mejor no andar de noche por las calles.
fíjate muy bien que cualquier trago que te tomes te lo sirvan cuando estés allí delante. A mis hermanos no sé qué les dijo, no sé si le mortifique que alguna mujer los mate. Correremos con la suerte. Estar de suerte ahora es estar viva. Ahora estar de suerte es que tu novio no resulte violador, abusador o femicida. Ahora estar de suerte es que a la muerte no le guste tu cintura y en su troca no te siga. Yo ya no sé qué hacer con esta rabia, tampoco mis amigas y parejas. Denuncias y denuncias y denuncias y denuncias y no más, no se ve nadie tras las rejas. Están libres afuera emborrachando a alguna chica para ver si en unas horas la corteja. Observas desde afuera, no lo notas, pero una duda crece en mi cabeza. ¿Será que lo mejor es ir a prisa mientras doy vuelta en la esquina de los ojos que me acechan? ¿Será que les aguanto la mirada o será mejor andar y dar la vuelta en otra cuadra?
De retour dans l'émission Orcase avec notre invitée Anna Dressler sur l'étude entre absence de chez soi et recherche de stabilité, parcours de mal logement chez les HHH, les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, et les personnes trans concernées par le travail du sexe et ou de la prostitution. Alors on a entendu qu'il existait aussi un autre système qui était un système 50-50 au niveau du mal logement. C'est quoi ce système?
Ouais, du coup, bah c'est pas une forme de logement en soi. Hein. C'est vraiment une sorte de système qui existe aussi en dehors des personnes que je viens de nommer en situation de migration, mais c'est un système qui existe tout court dans le système du travail du sexe. Du coup, 50-50, ça veut dire 50% de ce qu'on reçoit du client, je le garde, et 50% ça va au gestionnaire. Dans le système, ici, pour ces personnes qui sont en parcours de migration, souvent, comment ça se prononce, les personnes veulent venir en Europe, du coup, quelqu'un va leur proposer « je te paye tout, tu peux loger quelque part, et tu me payes le double en retour ». Du coup, je te paye le billet, mais tu me payes le double en retour. Et tu restes à cet endroit jusqu'à ce que tu aies payé ta dette. Du coup, tu crées une dette et tu payes 50% de toutes les prestations, c'est pour payer ta dette. Parfois, même plus. Parfois, dans ce qui te reste, tu dois encore acheter le basique. Alors, du coup, il ne te reste pas grand-chose au final. Du coup, en fonction de la dette créée, ça peut quand même durer pas mal de temps. Et on a remarqué aussi que souvent, c'est attaché à une sorte de logement qui est assez problématique, où il y a des fois 8 personnes qui dorment dans une même chambre. Et alors du coup, à côté, il y a une autre chambre où les personnes peuvent travailler, mais la chambre de où on vit, en fait, on la partage avec beaucoup de gens. Du coup, il n'y a vraiment aucune intimité pour les personnes.
Et est-ce qu'on pourrait dire que ce sont des... Alors, je ne sais pas si on dit des Macs ou des passeurs, en fait, qui utilisent beaucoup ce système. parce que tu parles de dette liée à le fait d'être venue. Mm-hmm. Donc c'est un peu ça.
Bah, les limites, je sais pas, avec tout ce qui est traite humaine, sont peut-être un peu délicates, mais de manière générale, tout le monde avec qui on a parlé a décidé de soi-même de venir travailler. C'est pas une surprise ou quelque chose comme ça. On savait, on va travailler comme ça, mais peut-être que les situations sur place étaient quand même pas comme on se les imaginait et bien pire en fait. Mais c'est pas une question de, on vous annonce quelque chose, tu savais pas que tu allais faire du travail du sexe, c'est pas ça.
En fait, là, donc les personnes viennent clairement parce qu'elles vont, elles savent qu'elles vont faire du travail du sexe, mais les conditions, elles savent pas trop où elles vont loger et dans quelles conditions elles vont loger, quoi.
Oui, et que ça peut prendre quand même beaucoup plus de temps pour payer quelque chose, que finalement on n'est pas si libre dans ces mouvements, on doit quand même se cacher, est-ce qu'on peut refuser un client, c'est pas toujours clair, des fois, souvent non, alors du coup les contraintes sont quand même assez importantes.
Ok, mais quand on parle de l'option 50-50, on est quand même, enfin, il y a quand même des contacts qui se font en amont et sur un réseau bien particulier, enfin je veux dire, c'est pas sur Facebook que je vais trouver...
sur Facebook, j'ai pas encore cherché, ça se fait en amont, via, bouche à l'oreille. On connaît quand même un peu la communauté peut-être dans les pays d'origine et alors du coup on a vu peut-être l'une ou l'autre amie partir qui va du coup te dire ah tiens je connais quelqu'un ou moi je peux t'aider. C'est bouche à l'oreille et après oui des groupes un peu des réseaux sur WhatsApp ou ce genre de choses peut-être.
Donc il y a une forme de travail en réseau comme dans les associations traditionnelles mais il n'est pas top ce travail-là.
Ouais. Après dans les maisons 50-50 on peut aussi revenir une fois qu'on a payé sa dette et dire ça m'arrange de travailler de cette manière parce que la personne prend en charge les agendas avec les clients et tout ce genre de choses. Mais bon, c'est quand même une partie très importante du revenu qui reste chez le gestionnaire.
Est-ce que peut-être qu'une des solutions, ça pourrait être peut-être être des hôtels ou peut-être des plateformes de location en fait, d'appartements. Ce ne serait pas une solution qui serait peut-être plus adaptée?
Il y a beaucoup de gens aussi, on n'a pas fait toute la liste de toutes les typologies des personnes de mal logement, des formes de mal logement. Du coup, en effet, il y a beaucoup de gens qui logent aussi en Airbnb, via Booking ou ce genre de choses, ou dans des hôtels. Bah, faut savoir aussi, déjà, on a parlé des plazas où le coût est important. Airbnb, on le connaît tous, se loger là, c'est pas donné non plus. Et souvent, c'est pas forcément toléré qu'on fasse du travail du sexe. Il y en a certains qui connaissent en fait ce modèle et alors du coup qu'ils tolèrent, mais sinon, il faut faire très attention. Parce qu'il y a deux choses. Il y a d'un côté vouloir se loger, de l'autre côté trouver aussi un endroit où travailler, vu que ces personnes n'ont pas accès aux lieux officiels où on pourrait faire du travail du sexe. Alors du coup, souvent, les deux choses doivent se faire dans l'espace privé, intime. En fait, il faut y travailler aussi. Et si on loue, par exemple, en Airbnb, il faut savoir à l'avance, est-ce que je vais pouvoir y travailler ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui va m'empêcher d'y travailler? Alors du coup, c'est parfois, on peut louer pour une semaine quelque chose et se retrouver à pas travailler et payer beaucoup, en fait.
En t'entendant parler d'Airbnb, j'imagine que, en termes de déclaration, les propriétaires ne savent pas sur Airbnb qu'on loue pour que les gens puissent se prostituer. Et c'est pas pourquoi, mais moi, la prostitution m'a toujours engendré de la insécurité pour les personnes qui pratiquent la prostitution. Je me dis, mon Dieu, là, elles reçoivent carrément. Alors, même si c'est Airbnb, elles reçoivent dans un domicile, elles reçoivent chez elles, donc elles sont vraiment à la merci des gens. Et ça me. Enfin, je sais pas si c'est revenu souvent dans les discours, mais c'est quelque chose, moi, qui me surprend toujours, quoi.
Oui, ça reste. Je pense que, il y a des personnes qui font ça par choix et des personnes qui font ça pas par choix. Et on a aussi rencontré beaucoup de personnes qui n'avaient pas forcément d'autre choix.
Par rapport à la sécurité, tu disais les 50-50 ou les plazas, il y avait des autres. Donc, si jamais il y avait un souci de violence ou les autres pouvaient intervenir, ici, là, t'es vraiment. T'es seule, quoi.
Ça dépend. Déjà, quand on travaille là-dedans, je pense avec le temps, on acquiert les bons réflexes de savoir qui est une personne avec qui on veut avoir un rendez-vous et avec qui non, qui n'est pas une personne de confiance, avec qui ça pourrait mal se passer. Après, vu que le coût des Airbnb est assez important, personne ne vous empêche de le louer à deux ou à trois. Du coup, souvent, ce qui se fait aussi pour partager les coûts, c'est qu'on loue plusieurs. Et alors, du coup, on se retrouve de nouveau dans un système de contrôle de sécurité informel, on va dire.
D'accord.
Est-ce que finalement, toutes ces situations de mal logement, est-ce qu'on pourrait dire presque les personnes que tu as rencontrées, on pourrait parler qui vivent, qui sont nomades, en fait, c'est que ça a une certaine forme de nomadisme, parce qu'en fait, il n'y a pas de solution pérenne sur du long terme.
Il y a plusieurs choses là-dedans, parce que nous, on parle aussi de nomadisme, on va dire, dans le rapport, mais il faut distinguer plusieurs choses. Du coup, d'un côté, le travail du sexe, souvent la prostitution, on gagne mieux si on bouge de ville en ville. Alors du coup, c'est pour ça aussi qu'il y a des logements qui sont proposés à la semaine, parce que comme ça, on peut bouger dans une autre ville, on trouve d'autres clients et on peut se permettre d'avoir un revenu plus raisonnable que si on reste toujours dans la même ville. Après, il y a tout ce que, en effet, on ne trouve pas de logement. Alors du coup, on est forcé de bouger tout le temps. Et du coup, là, de nouveau, oui, il y a une sorte de nomadisme. Mais aussi, on voit aussi une évolution pour certains qui commencent à rester plus longtemps à des endroits où les situations se stabilisent petit à petit. Mais ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et c'est pas, ça, souvent, les logements ne sont toujours pas idéals.
Et donc, parmi tout ce que tu as cité, parmi tout ce que les vécu des personnes, est-ce que les personnes ont parlé qu'il y avait une forme de solidarité dans la communauté?
Ouais. Solidarité, oui, et tension aussi, les deux. Je pense qu'il faut toujours voir les deux ensemble. Solidarité, déjà tout ce qui se fait pour pouvoir faire ça, parce que les personnes viennent aussi pour avoir peut-être un futur meilleur, c'est une solidarité qui se crée. Comment arriver ici? Où est-ce que je peux me chercher à manger? Où est-ce que je peux me chercher des médicaments? Quelqu'un qui est sur place pour si jamais quelque chose passe mal. Du coup, oui, il y a la solidarité. En même temps, il y a aussi la concurrence, parce que oui, tout le monde veut avoir un client et veut avoir les bons clients, pas les clients qui te traitent mal. Alors du coup, c'est aussi quelque chose qui est assez rare. Trouver les bons logements aussi, il n'y a pas assez de logements. Alors du coup, en même temps, il y a aussi, bien sûr, la concurrence. Il y a de l'hierarchie aussi. Du coup, des personnes qui sont plus loin dans leur parcours, sont un peu plus haut dans la hiérarchie, peuvent demander de l'argent pour un service ou ce genre de choses. Alors du coup, il y en a des deux. Mais okay. Il y a aussi des solidarités rémunérées, on va dire.
Ok.
Est-ce que, donc tu as parlé du fait qu'il y avait quand même beaucoup de personnes qui étaient pas automatiquement avec une situation avec papier, et est-ce que des personnes qui ont l'accès au papier, est-ce que ce sont des personnes qui pourraient avoir peut-être plus de discrimination au logement que d'autres, au vu du métier, au vu de ne pas avoir de rémunération fixe ou ce genre de choses?
Si je comprends bien, du coup, si on a des papiers, est-ce qu'on a plus de discrimination, c'est ça
ou... Non. Est-ce que c'est un public justement qui vivrait plus de discrimination au logement que d'autres?
Ceux qui n'ont pas de papiers.
Que ce soit avec papier ou sans papier.
Okay. Ils vivent plusieurs discriminations. Déjà, être travailleur, travailleuse du sexe, oui, c'est une discrimination. Quasi personne ne veut louer à une personne qui va faire ce travail chez soi. Il y a la question LGBT, bien sûr. Et il y a aussi la question de migration et en effet des papiers. Alors du coup, il y a d'un côté les origines, mais aussi pas avoir les bons papiers pour louer. Du coup, oui, il y a beaucoup de discrimination. Si on prend tout ça ensemble, je pense que ça en fait un beau paquet. Et ça explique aussi pourquoi le logement est si délicat pour ces personnes.
Oui, donc ça prouve un public beaucoup plus vulnérable.
Ouais.
Là, on parle, l'étude est vraiment fixée sur le mal logement, mais c'est un public plus vulnérable sur un ensemble d'éléments où on pourrait aller beaucoup plus loin. On a parlé là des médicaments, donc la médecine, l'accès en fait à différents services de la société, quoi. Est-ce qu'on ne fera pas de nouveau une petite pause?
Tout à fait.
Alors, on vous propose d'écouter Maclean da Quebrada avec Bixa Preta. Excusez-moi pour mon accent.
Bicha estranha, louca preta da favela. Quando ela tá passando, todos rindo a cara dela. Mas se liga, macho, presta muita atenção. Senta e observa a tua destruição. Que eu sou uma bicha louca, preta, favelada. Que quando eu vou passar e ninguém mais vai dar risada. Se tu for esperto, pode logo perceber que eu já não tô pra brincadeira. Eu vou botar é pra fuder. Que bicha estranha, ensandecida, arrombada, pervertida. Elas tomba, fecha a causa, elas é muita lacração. Mas tá que eu não tô te ouvindo, boy. Eu vou descer até o chão. O chão.
chão, chão, chão. Bicha preta, tra, 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 tra. 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 A minha pele preta é meu manto de coragem. Impulsiona o movimento e vai, desce a viadagem. Vai, desce, 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 desce a viadagem. Olheira com um quê de Cinderela. Eu saio de salto alto, maquiada na favela. Mas se liga, macho, presta muita atenção. Senta e observa a tua destruição. Que eu sou uma bicha louca, preta, favelada. Que quando eu vou passar e ninguém mais vai dar risada. Se tu for esperto, pode logo perceber que eu já não tô pra brincadeira. Eu vou botar aí pra fuder. Que bicha estranha, ensandecida, arrombada, pervertida. Elas tomba, fecha a causa. Elas é muita lacração. Mas tá aqui, eu não tô te ouvindo, boy. Eu vou descer até o chão. O chão. O chão. O chão, 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 chão. Bicha preta, tra, tra, tra. Bicha preta, tra, 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 tra. Bicha preta, tra, tra, tra. Bicha preta. Sempre borralheira com um quê de Cinderela. Eu saio de salto alto, maquiada na favela. Mas que pena, sou agora um viu que bela aberração. É muito tarde, macho alfa. Eu não sou pro teu bico, não.
Bonsoir, vous êtes toujours dans l'émission Orcaz. Cette fois-ci, on travaille sur l'absence de chez soi, chez les personnes, des personnes trans et des personnes, des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes qui se prostituent. Et donc, on a vu que on a parlé du mal logement. Et en fait, j'imagine que ce mal logement, il a un impact sur la santé physique, mentale, sexuelle, sociale. Je ne sais pas.
Oui, tout à fait. Enfin, je pense que déjà la santé, on a vu les personnes ont de manière difficile accès au logement, mais aussi de manière très difficile accès aux services de santé. Du coup, ne connaissent pas toujours leurs droits en matière de santé, si on peut voir un docteur, ce genre de choses, et aussi où les trouver. Alors du coup, par exemple, si on parle du système de 50-50, on a rencontré des personnes qui nous disaient « je vais te ramener chez le docteur », mais alors du coup, la personne accompagne la personne chez le docteur, alors du coup, il y a toujours cette surveillance, on ne peut pas parler librement. Ou d'autres situations où les personnes tout court ne savent pas où aller et n'y vont pas, sauf si vraiment c'est très 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 urgent. Mais les gens attendent beaucoup trop longtemps pour se rendre chez le médecin de manière générale. Et après, il y a tout ce qui est santé mentale. Bah, on peut s'imaginer si on ne peut pas se reposer, si on doit déménager plusieurs fois, on ne peut pas se reposer en fait. Ou il y a des lieux où on ne peut pas dormir la nuit parce que la personne à côté travaille, alors du coup, c'est dur de trouver du repos. Et on ne peut pas se construire une vie facilement non plus si on doit tout le temps déménager. Il y a beaucoup de gens qui disent du coup on aimerait bien apprendre une langue, on aimerait bien peut-être aussi faire autre chose. Tout le monde ne veut pas forcément faire de la prostitution ou du travail du sexe. Mais le fait d'être bougé tout le temps ne le permet pas. Alors du coup, il y a quand même pas mal de gens qui se retrouvent aussi en dépression et qui aimeraient bien s'en sortir de cette situation qui pèse aussi sur leur santé mentale.
Ok. Et j'imagine que si elles sont encore vivantes aujourd'hui, c'est qu'elles ont eu des stratégies pour survivre. C'est quel type de stratégie ?
Une chose, déjà, c'est d'apprendre. On apprend malheureusement avec les mauvaises expériences qu'on a. C'est apprendre de manière très dure, mais on apprend avec tout ce qu'on a déjà vécu, avec des astuces des copines et des copains. les réseaux qu'il y a, du coup, de dire attention, là il y a un client qui est dangereux, ou de dire ce logement-là il est peut-être meilleur, allez là-bas, ou il y a beaucoup de clients à cet endroit-là pour le moment, alors du coup aussi pour s'aider au niveau des revenus, ou même si on se retrouve sans logement, il y a quand même certaines solidarités, du coup, de pouvoir peut-être aller chez quelqu'un d'autre pour se loger pour un certain temps. Oui, voilà, c'est ça les stratégies, mais après ça prend du temps aussi, tout ne se résout pas.
J'imagine une des stratégies, enfin dans ces moments-là on sort, enfin on est toujours dans la survie mais on sort, mais c'est d'avoir ses papiers, déjà ça aide, j'imagine, administrativement parlant.
Oui, et il y a aussi beaucoup de gens qui nous disent par exemple, regarde, il y a 2 ans j'étais dans la rue, regarde où je suis maintenant j'ai un toit au-dessus de moi, et il y a quand même des choses qui avancent, où l'année passée je devais travailler sans cesse, maintenant j'ai quand même le temps de pouvoir me reposer un peu plus. Du coup, ce parcours peut aider à avoir des papiers, on le note comme que ça fait une différence pour l'accès au logement aussi.
Ok, et donc tu parlais de l'évolution des personnes, et justement c'est quoi les aspirations de ces personnes ?
C'est des choses très banales, on va dire. C'est pouvoir se reposer, je pense. Ça, c'est, enfin, on sent vraiment cet épuisement chez ces personnes. Pouvoir se reposer, être en sécurité, pouvoir dormir, pouvoir se construire une vie, faire autre chose que juste travailler toute la journée, avoir une famille, un logement. Voilà, c'est des choses qu'on prend pour comme allant de soi, mais... Voilà, c'est juste ça, je pense.
En fait, c'est vivre comme tout un chacun, tout un chacune.
Voilà.
Enfin, je veux dire, se lever le matin, boire son petit café ou son petit chocolat chaud et se mettre dans un lit douillet et voilà quoi, se sentir en sécurité chez soi.
Ouais, pas devoir penser où est-ce que je vais dormir demain, comment ça va se passer.
Et alors, quelles seraient les solutions face à ce problème à mettre en place ? Je veux dire que ce soit institutionnel, que ce soit législatif, voilà. D'après.
C'est une très très grande question,
je pense.
Déjà, il y a des problèmes et des solutions à ces problèmes, je pense. Du coup, tout aborder, c'est peut-être très ambitieux, mais déjà, faut commencer à sensibiliser encore plus les gens, améliorer l'accompagnement.
Les sensibiliser à quoi ? À la prostitution ?
Parce non, que... les personnes tout autour, tout ce qu'il y a comme discrimination, quand même. Sensibiliser plus les personnes en lien avec ces personnes, quand je parle par exemple des centres d'accueil pour réfugiés, pour sensibiliser plus dans ce cas-là, par exemple, ou quand ils demandent de l'aide médicale aussi, dans ces cas-là aussi. Les accompagner en logement, avoir un meilleur accompagnement, mais avoir aussi, en fait, des logements qui s'y prêtent, parce qu'il peut y avoir des logements, mais qui ne sont pas pensés pour des personnes LGBT et qui ne fournissent toujours pas un cadre sécurisé. Et après, il y a aussi, de solutions. Déjà, rendre visibles ces problèmes et en parler, voir comment on peut faire quelque chose. C'était déjà l'étape qu'on voulait faire, de rendre un peu plus visible ce genre de choses. Mais il y a aussi soutenir plus de projets communautaires. Et je pense aussi, on peut aussi apprendre avec tous les réseaux qui sont créés de manière informelle. Il y a aussi, comme on dit, des solidarités là-dedans. Il y a aussi des réflexes qu'on peut retenir pour penser comment ça pourrait se faire autrement de manière officielle. Après.
C'est-à-dire ?
Par exemple, tout ce qu'il y a d'entraide au niveau de... Enfin, oui, comment elle gère d'aller d'un logement à un autre, tous ces réseaux qui doivent maintenant rester cachés. Si on pouvait le faire de manière officielle, qu'il y ait une plateforme ou je ne sais pas, ce genre de choses, alors du coup, il ne faut plus se cacher. On peut aussi réclamer plus facilement ses droits, c'est plus visible, ce genre de choses.
Donc si j'entends bien, il y a 2 sortes de travail principalement à faire. Un travail auprès des personnes, monsieur et madame, tout le monde, j'ai envie de dire, que pour pouvoir essayer de lutter contre les discriminations, les stéréotypes, les préjugés que les personnes vivent. Là, principalement, les HSH et les personnes trans, travailleurs et travailleuses du sexe ou de la prostitution. Mais pas que. Il y a aussi tout un travail de sensibilisation auprès, justement, des personnes concernées sur l'accès, en fait, à leurs droits, leur permettre d'en apprendre plus et de leur faciliter l'accès à leurs droits, en fait.
Ouais, et je rajouterais aussi, du coup, il y a madame et monsieur tout le monde, les personnes elles-mêmes, et le côté, on va dire, plus institutionnel. Il faut aussi créer des solutions adéquates au niveau institutionnel aussi.
Ouais, créer des espaces pour pouvoir accueillir justement les personnes en toute sécurité lorsqu'elles arrivent en Belgique et ne pas reproduire, en fait, les violences que les personnes essayent de fuir déjà dans leur pays d'origine. Mais un grand merci en tout cas. Est-ce que l'étude, on peut la lire quelque part ?
Je pense que vous la trouvez sur le site d'Alias, du coup alias.bruxelles. Et j'espère qu'il y a un onglet qui dit genre publication, recherche et que vous le trouvez là-dedans. Mais elle est en tout cas accessible en ligne. Et certainement, si vous contactez Alias, vous pouvez avoir une version papier aussi.
Super. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter sur l'étude ou quelles seraient tes aspirations pour la suite personnelle?
Ce serait bien que ce ne reste pas qu'une étude qu'on a écrite et qui s'oublie, mais que ça pourrait changer des choses. Alors du coup, c'est question de continuer d'en parler, de rendre visibles ces choses, mais c'est pas toujours évident. Mais voilà, que ça mène... Ouais, peut-être que les gens qui nous écoutent prennent ça un peu au sérieux et on parle autour d'eux.
Alors, quelque chose aussi important qu'on a oublié peut-être de souligner depuis le début de l'émission, c'est que quand on parle de personnes HSH ou personnes trans, travailleurs, travailleuses du sexe ou de la prostitution, on parle de personnes souvent qui n'en parlent pas en dehors des personnes concernées et qui essayent de dire qu'ils ont un autre métier ou autre chose. Et c'est peut-être des personnes, si vous êtes LGBTQIA+, que vous croisez peut-être dans des bars, dans des lieux festifs ou autres. Donc voilà, c'est pas un métier dont les personnes sont souvent fières, il faut savoir. Pourtant, il n'y a pas de honte, parce que quand on doit survivre, en fait, on fait ce qu'on peut. Et c'est souvent le cas du public que vous avez rencontré, n'est-ce pas ?
C'est un bon mot pour la fin, je pense, oui.
Voilà, un grand merci à vous deux, à Marine et à Anna. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes les deux.
Un grand merci à toi aussi, Mélanie.
Oui, merci beaucoup.
Et eh bien, on se retrouve la prochaine fois.
Orcase, une émission LGBT de l'association Telle Quelle en collaboration avec Radio Campus.